Radio Okapi.
Le journal. Babel Pongo Massimango.
Ebola en Ituri, la zone de santé de Boga, vient d'enregistrer son premier cas à confirmer. C'est la 25e zone de santé touchée dans cette province. Le chef de la chefferie de Baïma Boga appelle au respect des mesures barrières et à signaler rapidement tout cas suspect. Dans cette période de saison sèche caractérisée par des bancs de sable, la régie des voies fluviales RVF appelle les armateurs et conducteurs d'embarcations sur le fleuve Haute-Rivière à respecter les règles de navigation et à se référer à ses services pour éviter des accidents et autres naufrages. Comme invité, Gilles Faninou, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au terme de sa mission de 3 jours clôturée hier à Bounia, il parle de l'apport de l'UNICEF et de ses réponses face aux défis auxquels font face les enfants en première victime de l'épidémie et des conflits en Ituri. Madame, Monsieur, bonjour. La maladie à virus Ebola poursuit sa progression dans la province de l'Ituri. La zone de santé de Boga, dans le territoire d'Irumu, vient d'enregistrer son tout premier cas confirmé de la source Bundi Bugyo. Selon le médecin responsable de la zone de santé, il s'agit d'un cultivateur qui aurait été en contact avec un malade en provenance de Bunia. Après avoir présenté pendant plusieurs jours des symptômes compatibles avec Ebola, des prélèvements ont été effectués puis analysés au laboratoire de Bunia. Les résultats rendu public lundi dernier se sont révélés positifs. Depuis Bounia, Marcia Kisabia Mungu nous en dit plus.
Cette nouvelle suscite d'inquiétude au sein de la population de Boga, une région frontalière avec l'Ouganda. La zone de santé de Boga devient ainsi la 25e zone de santé touchée par l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Ituri. Face à cette situation, le chef de la chefferie de Baïma Boga, John Kabarole Kibasima III, appelle la population au calme et à la vigilance. Il invite ses administrés à prendre la menace au sérieux afin d'éviter toute propagation du virus au sein de la communauté. L'autorité coutumière rappelle que l'épidémie d'Ebola a déjà fait plusieurs centaines de victimes à travers la province. Les chefs Kabarole insistent également sur le strict respect des mesures de prévention, notamment les lavages réguliers de mains, l'évitement des contacts avec les personnes présentant des symptômes suspects et la déclaration rapide de tout cas présumé au service de santé. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Et vous le savez, l'un des principaux défis de cette nouvelle épidémie d'Ebola reste l'absence d'un vaccin contre la souche Bundi Bugyo, responsable de la flambée en Ituri. Cette question a été évoquée par la presse hier en marge de la visite du ministre de la Santé à Bounia. Le professeur Steve Aouka de l'Institut National de Recherche Biomédicale INERBE a fait le point sur les recherches en cours. Écoutons-les dans cet extrait choisi par Jean-Claude Lokidile.
Jusque-là, la souche à laquelle nous faisons face n'a pas encore de vaccin homologué, comme on dit, c'est-à-dire qui a été éprouvé. Cependant, et c'est cela une partie de notre travail, c'est de pouvoir rechercher si les candidats vaccins qui existent peuvent être efficaces. Ça, c'est la première phase et c'est dans une activité de recherche, mais qui appuie la réponse. Et lorsque nous allons avoir les évidences que ce candidat vaccin marche, on peut maintenant l'utiliser à grande échelle. Et nous sommes dans un délai entre 4 à 6 mois ou une année pour faire ces recherches et pouvoir apporter la véracité parce que nous ne pouvons pas utiliser un vaccin homologué pour tout le monde. Il y a les questions de sécurité sanitaire, il y a les questions d'efficacité qu'on doit résoudre. Les équipes sont en train de voir dans quelle mesure on va commencer ces recherches de manière à appuyer la réponse et mettre fin à l'épidémie.
À propos de la mission du ministre de la Santé arrivé à Bounia mercredi, sachez que Roger Kamba est allé évaluer la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Cela fait déjà 56 jours ce vendredi depuis la déclaration de cette 17e épidémie. Après une réunion avec le gouverneur militaire de l'Ituri, Roger Kamba a rencontré les équipes engagées dans la lutte contre la maladie. Que retenir de cette visite, Jean-Claude Lokidile?
Cette visite intervient dans un contexte particulier, marqué par la grogne des prestataires de la riposte. Ces derniers dénoncent le non-paiement de leurs primes, des disparités salariales, ainsi que des conditions de travail qu'ils jugent difficiles. Face à ces revendications, le ministre reconnaît des dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines, notamment lors de la mise à jour des listes du personnel. Il promet des mesures pour assainir le système de paiement et garantir que seuls les agents effectivement déployés sur le terrain seront rémunérés. Roger Kamba.
Nous devons nous assurer que nous payons ceux qui travaillent. On a eu quelques défis, c'est notamment du changement de liste qui a fait que, malheureusement, Il y a eu des grognes de certains qui disaient, mais moi je ne suis pas payé alors que je travaille. Et d'autres ont dit, mais où est-ce qu'il travaille alors qu'il est payé? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va régler. Nous allons donner une carte de santé à tout le personnel qui travaille. Et cette carte, elle est en même temps une carte de banque. Le paiement se fera donc de manière beaucoup plus fluide. Chacun va recevoir son argent sur sa carte. Et donc, ce problème sera effectivement réglé.
Le ministre a par ailleurs indiqué que l'Ituri demeure dans une phase très active de l'épidémie, marquée par une augmentation quotidienne des cas et par l'extension de la maladie vers la province de la Tchopo et celle du Haut-Touélé. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Toujours concernant la lutte contre Ebola au Nord Kivu, des centaines d'étudiants de la faculté de médecine humaine de l'université de l'Assomption du Congo, UAC Béni, ont pris part hier jeudi à un échange scientifique avec des professionnels de santé. Des discussions portées sur le thème riposte à la 17e épidémie d'Ebola en RDC, innovation clinique, défis communautaires et perspectives régionales. À travers cette activité, les organisateurs entendent renforcer les connaissances des futurs professionnels de santé sur les enjeux actuels de la riposte et leur rôle dans la sensibilisation des communautés. Au micro de Marc Marofimbo, le professeur Jean-Baptiste Minieri, vice-recteur de l'Université de l'Assomption du Congo, revient sur l'importance de cette activité.
C'est très important parce que c'est une question qui les touche de plus près, parce qu'ils sont appelés à intervenir directement. Parce que bientôt là, nous allons les envoyer sur le terrain comme stagiaires. Et c'est une des questions les plus sensibles auxquelles ils vont se confronter. Donc il fallait qu'ils aient une certaine préparation, mais qu'ils sachent aussi comment se protéger pendant ce temps de stage, mais aussi comment contribuer à protéger les autres. Ils doivent être en même temps des sensibilisateurs bien formés, professionnalisés sur la question de la maladie à virus Ebola. Et donc on est en train de les former déjà d'une façon concrète vers la pratique. Et les psychologues, évidemment, ils ont beaucoup d'espace de pratique, mais la question de la maladie à virus Ebola revient. Il faut qu'ils incorporent cela dans leur domaine d'intervention. En tout cas, la population, je voudrais rappeler que la maladie à virus Ebola, c'est une réalité. Nous devons savoir accepter ça. Donc la population a besoin de comprendre qu'est-ce que cela signifie et comprendre comment se comporter devant cette maladie à virus Ebola. Donc c'est une urgence de faire comprendre à chacun qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se protéger contre cette maladie.
Des participants ont de leur côté salué cette initiative qui leur permet de mieux comprendre les défis liés à la lutte contre Ebola et de se préparer à contribuer efficacement aux efforts de prévention et de prise en charge au sein de leur communauté. En cette période de saison sèche dans plusieurs provinces du pays, la régie de voies fluviales RVF, à travers sa base hydrographique du Grand Bandundu au Kasaï, tire la sonnette d'alarme. Elle appelle les armateurs, conducteurs d'embarcations et l'ensemble des usagers de voies navigables à respecter scrupuleusement les règles de navigation, c'est afin de prévenir des accidents sur les cours d'eau de la région. Selon Desami Ibrahimto, sous-directeur chargé des questions d'hydrobalisage à la base hydrographique du Grand Bandundu au Kasaï, le respect des consignes de sécurité et le recours à l'expertise de la RVF avant tout déplacement sur les rivières demeurent essentiels pour éviter les naufrages et autres incidents fluviaux. Il invite notamment les armateurs à s'informer régulièrement sur l'état des chaînons de navigation, des zones à risque ainsi que les dispositifs de balisage mis en place pour garantir la sécurité des personnes et des biens. On écoute au micro de Jean-Claude Tangamour de la radio-télévision Bandundu Développement.
Et à notre niveau, étant RVF, ce que nous pouvons prodiguer comme conseil aux usagers des voies navigables. D'abord, la RVF, je tenais d'abord à informer encore de plus parce que nous avons des échelles d'étillage, mais autrement appelées les stations linimétriques. Or, ces différentes échelles-là nous permettent de connaître les niveaux d'eau. Alors, par conséquent, ils sont appelés à recourir à la RVF pour connaître les niveaux d'eau. Parce que partant de ces niveaux d'eau, ils sauront comment charger leurs embarcations. Raison pour laquelle nous leur conseillons de passer dans nos bureaux pour avoir des informations nécessaires par rapport au niveau d'eau, afin de pouvoir limiter les surcharges, éviter également les échouements. Hein, parce que ces derniers temps, il y a pas mal de bas de sable, surtout sur la rivière Kasaï. Et nous conseillons également aux usagers d'éviter ce qu'on appelle la navigation nocturne. Elle est prohibée. Et parce que surtout durant cette période où il y a des bas de sable partout, il y a la baisse des niveaux d'eau.
Destami Bahitro, sous-directeur chargé des questions hydro-balisage à la base hydrographique du grand Bandundu Kasai à la RVF. Un accident de circulation s'est produit hier jeudi sur la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi Kibalas, à l'entrée du quartier Matadi Mayo, commune de Mongafula, Kinshasa. Selon les premières informations, un camion poids lourd aurait perdu son système de freinage avant de percuter des deux motards en stationnement qui attendaient des clients. Ces motards sont morts sur le champ. Le véhicule, lui, a terminé sa course sur le bas-côté. Le bilan définitif n'est pas encore déterminé. La résolution de la crise en RDC passe avant tout par le dialogue politique et le renforcement de la cohésion en national. C'est le message qu'a porté la coalition C64 lors de ses échanges avec le président burundais Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine. Au cours d'une conférence de presse tenue hier jeudi à Kinshasa, la plateforme a fait la restitution de cette rencontre. La C64 affirme par ailleurs qu'elle poursuivra ses actions pacifiques jusqu'à l'abandon du projet de révision constitutionnelle par le pouvoir de Kinshasa. Écoutons Jean-Marc Kabound dans cet extrait retenu par Jean Gandou.
Le président Evariste Ndayishimiye a indiqué avoir engagé, encouragé les autorités congolaises à privilégier les dialogues politiques et la cohésion nationale afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux menaces pesant sur sa souveraineté. Il a également souhaité recueillir la position de la C64 sur les perspectives d'un dialogue politique. La C64 a rappelé qu'on ne sauvera pas la RDC en traitant uniquement les conséquences de la crise tout en refusant d'en affronter les causes profondes. La guerre n'est pas la cause de la crise congolaise, elle en est la conséquence la plus tragique. La crise congolaise est aujourd'hui une crise systémique, crise militaire et sécuritaire, crise de gouvernance, crise de légitimité des institutions et crise constitutionnelle. Réduire cette crise au seul conflit armé dans l'Est explique largement l'échec des initiatives précédentes.
La coopération entre la République démocratique du Congo et l'Angola a franchi une nouvelle étape dans le domaine financier. À Luanda, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamesso, et son homologue de la Banque nationale d'Angola, Manuel Antonio Thiago Dias, ont signé un mémorandum d'entente destiné à renforcer la collaboration entre leurs deux institutions. Cet accord prévoit une meilleure coordination dans les domaines monétaires et bancaires. Objectif, faciliter les échanges financiers, renforcer la stabilité des systèmes financiers et accompagner l'intégration économique entre les deux pays. Le point avec Ella Chimbalo.
Cet accord établit un cadre de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques du système financier. Il porte notamment sur les systèmes de paiement, les politiques monétaires et d'échange, la supervision bancaire, la gestion des réserves internationales ainsi que les renforcements de la réglementation financière. Les deux banques centrales entendent également renforcer leur collaboration dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. L'accord prévoit par ailleurs la création d'un forum bilatéral permanent d'échange d'informations. Cette plateforme permettra aux experts des deux institutions de partager leurs expériences, de mieux anticiper les risques financiers transfrontaliers et d'améliorer la surveillance des établissements financiers opérant dans les deux juridictions. À travers cette coopération, Kinshasa et Luanda ambitionnent de renforcer leurs liens économiques et de créer un environnement financier plus favorable au développement des échanges commerciaux entre les deux pays.
Actualité internationale.
Les manifestations contre l'immigration ont pris une nouvelle tournure en Afrique du Sud. Hier jeudi, à Johannesburg, des groupes de Sud-Africains ont amené des étrangers présumés en situation irrégulière à la police, ce qui vient alimenter un climat de peur dans plusieurs quartiers et ravive aussi les tensions avec certains pays voisins. Les organisateurs affirment vouloir attirer l'attention des autorités sur l'immigration clandestine qu'ils accusent d'aggraver le chômage et l'insécurité dans le pays. Le Sénat paraguayen a officiellement pris ses distances avec la sénatrice Céleste Amarilla, mise en cause pour ses propos racistes visant le footballeur Kylian Mbappé. Réunie en séance hier, la Chambre haute a adopté une motion tenant l'élu personnellement responsable de ses déclarations afin de dégager l'institution de toute responsabilité dans cette affaire.
L'invité.
Le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a achevé hier jeudi une mission de 3 jours dans la province de l'Ituri confrontée à l'épidémie d'Ebola et à l'insécurité. Au cours de son séjour, Gilles Faninou a rencontré des autorités provinciales, des partenaires engagés dans la riposte, ainsi que des équipes de plusieurs centres de traitement d'Ebola et structures sanitaires appuyées par l'UNICEF. Alors, quel bilan tire-t-il de cette mission? Quelle réponse l'UNICEF entend-il apporter aux défis auxquels font face les enfants, premières victimes de l'épidémie et des conflits? Gilles Faninou répond aux questions d'Isaac Raymond.
Gilles Faninou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes arrivé depuis mardi à Bounia. Quel est l'objectif de votre mission en Ituri dans un contexte marqué par l'épidémie d'Ebola et les défis humanitaires persistants?
L'objectif de ma visite, c'est vraiment de voir comment l'UNICEF contribue à la riposte nationale. Nous avons déployé une grande équipe ici. C'était important, après pratiquement 8 semaines de réponse, de venir voir le niveau de contribution de l'UNICEF, les défis qui se posent et voir un peu comment nous pouvons soutenir davantage pour accélérer notre contribution à la riposte.
Quel appui l'UNICEF apporte-t-il actuellement au gouvernement de la RDC dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, notamment en Ituri?
Ebola, c'est une épidémie qui frappe beaucoup plus les enfants et les femmes. Donc en tant que tel, notre rôle, c'est d'attirer l'attention de tous les acteurs, le gouvernement, mais également les autres partenaires, qu'on comprenne que l'enfant est très affecté. La femme est très affectée et que ce sont des populations cibles qui ont des besoins particuliers dont il faut tenir compte dans la riposte. La deuxième chose, c'est que notre contribution s'articule autour de 2 à 3 composantes principales. Communication de risque, tout ce qui est engagement communautaire. La deuxième composante, hygiène, eau et assainissement. Troisièmement, on apporte aussi l'appui psychosocial aux enfants. Quand les parents sont affectés, les enfants se trouvent dans une situation particulière et ont besoin de psychologues, ont besoin d'appui psychosocial. Et ça, l'UNICEF appuie le gouvernement dans ce domaine.
Des milliers d'enfants vivant dans plus de 60 sites de déplacés en Ituri sont particulièrement exposés au risque de contamination par Ebola à raison de conditions de vie précaires et d'un accès limité aux mesures de prévention. Comment l'UNICEF compte-t-il renforcer la protection de ces enfants dans le cadre de son mandat?
C'est d'abord de faire du plaidoyer. On a rencontré le gouverneur. Il a même demandé et nous avons répondu favorablement d'avoir une séance en août, le mois prochain, sur la situation des enfants dans la province de l'Ituri. Avant Ebola, il y avait une situation humanitaire critique, choléra, polio, beaucoup d'enfants en dehors des écoles, beaucoup d'enfants travaillant dans les mines, beaucoup d'enfants exploités. On avait la violence par rapport aux gens. Tous ces problèmes-là, c'est comme si notre mémoire les avait oubliés et on se focalise sur Ebola et la continuité des services de santé n'est plus là. Donc il est important, en même temps que nous intensifions notre réponse à Ebola, de continuer aussi les services essentiels. La province avait fait des progrès par rapport à ces services-là. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser tomber. On risque de regresser.
Dans plusieurs territoires de l'Ituri, notamment Djougou, de nombreux enfants sont privés d'école depuis plusieurs années à cause de l'insécurité. Quelles actions l'UNICEF envisage-t-il en collaboration avec le gouvernement pour garantir à ces enfants leur droit à l'éducation?
On a constaté, même avant Ebola, que la masse d'enfants en dehors de l'école était très très élevée. Si Ebola encore produit des enfants en dehors de l'école, nous risquons d'être dans une situation où le futur de cette province sera hypothéqué. Donc si nous voulons une province où il y a la paix, où il y a la tranquillité, il faut s'assurer qu'aujourd'hui les enfants sont à l'école, même si nous sommes en conflit, qu'on trouve des alternatives à l'école, même s'il y a Ebola, qu'on trouve les moyens de bien préparer la rentrée pour que Ebola ne devienne pas une source de production d'enfants en dehors de l'école.
Quel message souhaitez-vous adresser à la population de l'Ituri, particulièrement aux familles, aux enfants et aux communautés confrontées à l'insécurité et à l'épidémie d'Ebola?
Les communautés en général, elles font déjà beaucoup d'efforts. Et en général, lorsque vous avez une épidémie qui a duré quelques semaines, la population parfois commence par laisser tomber les mesures et les précautions. Non, c'est maintenant qu'il faut redoubler d'ardeur et il faut être plus vigilant. Le virus est là et continue de circuler à une vitesse qui est plus grande que le niveau de réponse qu'on donne aujourd'hui. Donc avec l'aide de la population, les précautions que la population prend, nous allons arrêter ou ralentir si chacun de nous, chaque membre de la communauté, prend les précautions qu'il faut et les précautions, on les connaît.
Gilles Fagninou, je rappelle que vous êtes le directeur régional de l'UNICEF en Afrique de l'Ouest et Centrale. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal préparé par Richard Junior Kamunga, mis en onde par Dieudonné Enyangasa. Merci de nous avoir accordé votre attention et votre temps. Bonne journée à vous.